Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Francis.
Vous salut êtes... Jean-François.
Alors, vous êtes sur RTF 95,4 MHz et vous écoutez Le Mandarin Merveilleux, les réducteurs de texte. Une émission consacrée à la littérature, à la musique classique et bien sûr au jazz. Mais yes. Que vois-je ? Ah si, vous avez quand même un bon paquet de CD.
Oui, je m'inquiétais. Oui, oui. Vous étiez inquiet ? Non, regardez.
Je me disais, mais que se passe-t-il ?
Ils sont là.
D'accord, très bien.
Et
très
vous,
bien.
Vous avez des beaux
Alors,
livres.
Alors, j'ai des beaux livres. Oui, en plus, c'est des livres qui sont pas mal cette fois. Alors, un livre très récent, un livre de Jean Rollin. Vous connaissez Jean Rollin déjà, on a parlé de nombreuses fois. Alors c'est le frère d'Olivier Rollin qui a été en résidence d'écriture à Limoges et que j'aurais tendance à préférer à Jean Rollin, mais c'est pas du tout le même genre. Voilà. Et puis alors j'avais complètement oublié, j'ai trouvé ce livre un petit peu par hasard, de Gilles Leroy, Alabama Song. Ça vous dit quelque chose ?
Ben oui. Ah, je vois qu'il a une belle jaquette rouge.
Oui, bah d'accord, c'est marqué dessus. Bon, c'est le prix Goncourt 2007.
Bah, ça fait quelques années, on a eu le droit d'oublier. Hein.
D'accord,
Il y a eu beaucoup de prix Goncourt depuis, dont certains tout à fait remarquables.
Alors, vous savez qu'Hervé Le Tellier, dont nous avions parlé pour Anomalie, il a battu le record de vente. Il a vendu 1 300 000 exemplaires de son roman L'Anomalie. Là, c'est la plus grosse vente depuis que le prix Goncourt existe.
Là, sa fortune est faite, il peut écrire quelques livres moins vendus.
Oh, oui, tranquille, oui, parce que ça lui fait un confortable matelas. Mais il l'a eu par son talent qui est considérable, et donc ça c'est très bien. Donc voilà pour les livres. Bon, alors
ensuite, il y a une programmation classique dans cette émission, n'est-ce pas ?
Ah oui, alors écoutez, je vous ai porté du connu, un peu comme ma coutume.
Oui.
Du très connu et du pas connu du tout.
Alors, par quoi on commence ?
Alors, le très connu, c'est Tchaïkovski. On va commencer par un extrait de la sérénade pour cordes en ut majeur, interprété là par l'orchestre de chambre Nouvelle Europe, dirigé par Nicolas Kroes.
Thank you. Thank you.
Voilà, donc c'était un bel accord de do majeur à la fin. C'était Tchaïkovski, la sérénade pour orchestre à cordes. Oh, c'est très connu, c'est très connu. On vous a épargné la valse qui suit, mais elle est très belle aussi. Peut-être on vous la passera,
on la passera
un jour.
Ultérieurement, si vous êtes sage.
Voilà, alors maintenant, c'est...
C'est une page de jazz, maintenant.
Oui, bah oui, oui c'est une page de jazz.
C'est un peu le principe de cette émission.
Mais alors, est-ce que c'est Stéphane Belmondo ?
Bravo, c'est bien lui. Alors, figurez-vous que, bien sûr, il a beaucoup joué avec son frère Lionel. Alors, Stéphane, c'est le trompettiste. Lionel, c'est le saxophoniste. Et Stéphane Belmondo a fait un premier disque solo en 2004-2005. C'est celui qu'on va écouter. Mais son frère n'était pas bien loin, car c'est lui qui a fait les arrangements des morceaux. Alors, ce disque était inspiré par des mélodies de Stevie Wonder. Et alors, il a choisi de reprendre certaines mélodies qui ne sont pas très connues, puis de les arranger et de les interpréter d'une façon un peu jazzifiée. Ça donne un très beau disque, vraiment magnifique, qui s'appelle Wonderland, que je vous recommande vraiment parmi les bons disques de jazz français. Et donc là, on va écouter Creepin', qui est une composition de Stevie Wonder. Moi, je ne la connaissais pas, pourtant, Dieu sait que je l'ai beaucoup écouté dans mon jeune temps. C'est vraiment, c'est très intéressant. Alors, je vous signale que les deux Belmondo vont à nouveau jouer ensemble cette année. Après une dizaine d'années de carrière séparées, ils ont décidé de retravailler ensemble avec quelques très bons musiciens. Et on pourra les voir dans plusieurs festivals en cette année 2024. Donc si vous nous écoutez en 2024, parce que cette émission est parfois rediffusée longtemps après, il n'est pas trop tard pour regarder dans quel lieu se produit le quintet de Lionel et Stéphane Belmondo. Si vous nous écoutez en 2025 ou 2026 ou 2027...
C'est fichu.
Ouais, enfin, peut-être pas. Donc on écoute Creepin'. Thank you. Et il est l'heure du premier livre.
Oui, il est l'heure du premier livre. Ah, c'est un livre très récent, c'est le dernier livre de Jean Rollin. Alors Jean Rollin, au départ, rien ne le destinait à la littérature, puisque c'est un ingénieur de centrale, c'est un piston, comme on dit. Mais il a, c'était également un dirigeant des maoïstes, avec son frère Olivier Rollin, qui lui était un normalien de la rue d'Ulm, d'où il s'est fait foutre à la porte pour avoir établi des camps de base maoïstes. Enfin bref. Et l'un comme l'autre se sont tournés vers la littérature en se disant que c'était bien là une belle façon d'appréhender le monde. Alors là, c'est un livre qui s'appelle « Les papillons du bagne ». Et alors, nous avions parlé, je me souviens à cette émission... nous avions parlé, j'avais parlé du pont de Beson, et j'avais parlé de Hormuz.
Oui.
Et Hormuz, vous l'aviez lu aussi.
Je l'avais lu aussi. Oui.
Voilà, il y avait aussi Terminal Frigo, il y avait aussi l'explosion de la durite. Vous vous rappelez l'explosion de la durite?
Oui.
Et alors, celui que j'ai trouvé le meilleur, le plus extraordinaire, c'est le ravissement de Britney Spears.
Oui, oui.
Vous vous rappelez, cette espèce de détective improbable qui ont pour mission d'enlever Britney Spears. Et bien entendu, ils n'y arrivent pas. Enfin bref. Donc voilà, là, les papillons du bagne. Alors, Jean Rollin nous raconte comment il est devenu, un peu par hasard, lépidoptériste. Ce sont les collectionneurs de papillons. Et alors, il nous explique un peu, il nous introduit à cette discipline. Alors, il y a évidemment de très très nombreuses espèces de papillons. Il y en a peut-être des millions.
Des millions, je crois pas, mais des milliers, oui.
Mais en tout cas, des centaines de milliers.
Peut-être.
C'est absolument incroyable. Et alors, il parle de cette passion qui lui vient, et de fil en aiguille, il rencontre quelqu'un qui a connu quelqu'un qui était un surveillant du bagne de Cayenne et qui chargeait les forçats d'aller lui chercher en Guyane certains papillons que lui revendait ensuite à des collectionneurs en Europe. Et alors, on apprend en passant, quand on ne le sait pas, moi je ne le savais pas, que, alors vous savez, le principe du bagne de Cayenne, c'était la relégation. Les gens, alors évidemment, il y avait des gens qui avaient commis des délits très importants, des crimes, et qui, même à leur sortie de prison, n'étaient pas libérés pour autant, mais étaient envoyés à Cayenne, au bagne. Et alors, il y avait aussi des gens qui, ayant commis plusieurs de nombreux délits, étaient relégués, étaient considérés qu'ils n'étaient plus intégrables dans la société, et on les envoyait à Cayenne. Alors, il y avait des gens comme ça, qui avaient commis à de nombreuses reprises le délit de vagabondage. À l'époque, c'était un délit. Et on les envoyait à Cayenne, on disait, on l'a arrêté 10 fois.
Avec interdiction de revenir en métropole.
Absolument. Alors, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, il y en avait qui revenaient, mais pour beaucoup d'entre eux, on leur interdisait de revenir en métropole. Alors, vous imaginez le développement économique de Cayenne avant Kourou. C'était pas grand chose, et alors il menait là une vie de clochard, de SDF, une vie extrêmement malheureuse. On rend compte que le système pénal français a été d'une vacherie, d'une cruauté. Il suffit de lire la façon dont on traitait les enfants dans les bagnes pour enfants, par exemple de Maitré en Touraine, raconté par Jean Genet, qui a été lui-même élèves, mais par d'autres aussi, les punitions qu'on infligeait, par exemple à la prison de Clairvaux, où les détenus qui étaient punis étaient obligés d'arpenter la cour pendant 3-4 heures avec des sabots de bois qui pesaient chacun 2 ou 3 kilos. Et enfin, c'était une espèce de sadisme épouvantable. Bref. Donc, ce personnage récupère des relégués, des forçats, et il leur dit je t'achète les papillons. Voilà. Alors, donc, Jean Rollin va en Guyane, il voit des papillons, il rencontre les gens qui ont connu ces gens-là et tout ça. Et ça fait un livre bien agréable à lire, curieux, mais bien écrit, un peu comme tout ce qu'il a écrit, à part peut-être le ravissement de Britney Spears, que je mettrai très au-dessus des autres à cause de son, dans une espèce d'ironie tout à fait sympathique. Alors voilà, donc c'est Jean Rollin, Les Papillons du Bagne, et c'est aux éditions POL.
Et maintenant, nous allons écouter Jean-Michel Hassler, qui a été bien connu à Limoges parce qu'il a été le chef du premier ensemble baroque.
Il a été le premier chef de l'ensemble baroque. C'était lui-même. Il avait beaucoup travaillé avec Ton Kopman, donc claveciniste Jean-Michel Hassler. Et il avait travaillé avec quantité de gens les uns étaient très très bons, d'autres un peu moins bons. Mais ça formait un ensemble. Bon, et puis les choses ont évolué par la suite. Il a eu le mérite, à une époque où c'était pas encore évident, de déterrer, si j'ose dire, de la musique française et des auteurs peu connus et qu'il est intéressant d'écouter. Alors, je vous propose d'écouter André Cardinal des Touches. Alors, il n'était pas cardinal. Cardinal des Touches, c'était son nom de famille et son prénom c'était André. Donc il a écrit un opéra. Alors André Cardinal des Touches, donc 1672-1749. Et il a écrit un opéra. Il a écrit beaucoup de choses, hein. Beaucoup d'opéras, mais sur des sujets mythologiques. Omphale. Alors vous savez, l'histoire d'Omphale, c'est l'histoire de cette reine qui avait réussi à asservir, alors les féministes actuelles diraient à déconstruire, Héraclès qui, au pied d'Omphale, faisait des travaux de couture et de broderie avec elle, avant de se ressaisir et de reprendre sa massue,
de se remettre au boulot,
et sa peau de lion, et de se remettre au taf. Voilà, donc je vous propose d'écouter quelques extraits de cet opéra ballet Omphale par André Cardinal des Touches, interprété par l'ensemble baroque de Limoges, et ça date pas d'hier. Thank you.
Voilà quelques extraits de cet opéra.
Voilà cet opéra. Alors, c'est, je crois que c'est un opéra ballet. Voilà interprété par l'ensemble baroque de Limoges de l'époque. Et alors, il me revient en lisant la distribution que il y avait parmi nous Eckhard Kalle qui jouait de l'alto. Eh bien, Eckhard Kalle a été chargé de faire toute l'acoustique de la Philharmonie de Paris. Jolie carrière pour être parti de Limoges. Voilà. Bah écoutez, on ne le trouve plus, ce disque. On ne le trouve plus. Mais enfin, peut-être chez les collectionneurs. Alors, le jazz, en tout cas, ça se trouve toujours.
Toujours. Ouais. Je vous propose d'écouter un pianiste italien, c'est Stefano Bolani, que beaucoup d'auditeurs connaissent parce que je le diffuse régulièrement. Il a fait récemment un disque, un très beau disque, très personnel, qui s'appelle Les Fleurs Bleues, et j'ai lu quelque part qu'il avait emprunté ce titre à Raymond Queneau.
Oui. Mais c'est un roman de Raymond Queneau. D'ailleurs, en passant, très bon roman.
Oui.
Lisez-le. C'est un très bon roman.
Alors,
très
amusant. Vous pourriez le lire en écoutant l'album de Stefano Bolani, Les Fleurs Bleues. Alors, on va écouter un titre qui s'appelle Rêver et Révéler. Alors, Stefano Bolani, c'est un type formidable. Il a commencé une forte personnalité. Il a fait le conservatoire de Florence en piano classique. Et puis vers 15-16 ans, ça l'agaçait un peu. Donc il est passé à plein d'autres choses. Alors il a accompagné des artistes de variété et des chanteurs pop italiens. Et puis il a fait une rencontre fondamentale. C'est celle du grand trompettiste Enrico Rava avec qui il a joué. Et puis à partir de là, il a joué avec tous les jazzmen italiens que vous connaissez bien. Jean-François comme Paolo Fresu.
Ah, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé.
C'est, entre autres. Et puis, bon, il mène une carrière en solo avec vraiment beaucoup de brio. Il se produit très souvent en France, qui est un peu sa seconde patrie, puisqu'on a aussi beaucoup de jazzmen avec qui il joue. Alors, je vous propose d'écouter donc Rêver et Révéler, extrait de l'album Les Fleurs Bleues. Thank you. Les fleurs bleues, Stefano Bolani. Et ouais. Le deuxième livre.
Alors, deuxième livre, donc c'est le prix Goncourt 2007. Donc un livre un peu ancien, mais il doit bien exister en folio. De Gilles Leroy, Alabama Song. Alors, Gilles Leroy a choisi d'écrire quelque chose, d'écrire un roman, d'ailleurs ça s'appelle roman, à partir de personnages réels. Alors, à la fin, il avoue en disant « Ça doit être considéré comme une œuvre de fiction, en particulier tel passage, tel passage, tel passage. » Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une espèce de biopic de, je sais pas quoi, de Scott Fitzgerald, le romancier, et de Zelda Fitzgerald, qui était son épouse. Et Le roi donne souvent la parole à Zelda. Zelda qui était le type même de, vous savez, la beauté du sud des États-Unis. Celle un peu qu'on voit au début d'Automne emporte le vent, Scarlett O'Hara, qui a une peur terrible d'attraper des taches de rousseur au soleil. Bon. Et donc voilà, Zelda qui était absolument frappadingue, totalement folle, et qui essayait d'écrire des livres comme Scott Fitzgerald qui a réussi à, vous savez, l'auteur de Gatsby le Magnifique, de Tendre et la Nuit, et qui a réussi à percer. Et surtout, alors si vous voulez lire du Scott Fitzgerald, surtout lisez ses nouvelles. Et il a gagné beaucoup d'argent en vendant des nouvelles au Earl Tribune, vous savez, les éditions du week-end, des journaux américains qui pèsent 3 kilos, et il y a des œuvres littéraires. Voilà. Donc, Gilles Leroy nous raconte un petit peu tout ça, les relations tumultueuses entre Zelda et Scott, et la fin tragique de Zelda Fitzgerald, puisque elle était internée dans un hôpital psychiatrique, il y a eu un incendie. Sa fenêtre était condamnée et sa porte était condamnée, et donc elle est morte, elle n'a pas pu s'échapper, elle est morte dans cet incendie. Et c'est un livre agréable à lire. Le personnage qu'a retrouvé Gilles Leroy, enfin, ou plutôt qu'a fabriqué Gilles Leroy, à partir de Zelda Fitzgerald, j'ajoute le détail, il en parle un peu aussi. Zelda Fitzgerald a absolument voulu tenter d'être écrivain pour faire concurrence à Scott. Et d'ailleurs, elle a écrit un roman qui n'est pas si mauvais que ça et qui s'appelle Save the Valse. Réservez-moi, je sais pas comment c'est traduit. Réservez-moi la prochaine valse. Et donc, Zelda, il en a fait un personnage sympathique, attachant, chaleureux. Adieu Zelda, ce fut ton honneur. Et voilà, donc c'est un livre sympathique qu'on lit avec plaisir et qui est le fruit aussi de recherches. Alors Gilles Leroy nous indique le nombre dans les remerciements, toutes les recherches qu'il a faites dans l'Alabama autour des personnages de Scott et de Zelda Fitzgerald. Voilà, c'était édité au Mercure de France. Je pense que ça a dû sortir en poche depuis.
Merci pour ce petit rappel presque historique maintenant.
Ah oui, oui, ah oui.
Un Goncourt de 2007, c'est vrai que si on l'a pas lu à l'époque, on n'a pas souvent le réflexe d'aller relire des anciens Goncourt. C'est sans doute dommage.
Alors, c'est parfois dommage, parfois pas. Parce que quelquefois, on se dit, mais enfin, comment est-ce qu'on a pu donner le prix Goncourt à ce livre absolument nul. Enfin,
vous avez des noms, là, je le sais.
Oui, non, mais ça m'arrive souvent de lâcher un livre au bout de 50 pages, vous savez. Mais vraiment souvent.
Bon, c'était pas le cas.
C'était pas le cas sur celui-là que j'ai lu jusqu'à la fin. Bon, alors, on va terminer avec un extrait du chef de Michel Pinollet de Montéclair.
Ah,
vous ne connaissez pas, c'est pas très connu, il faut dire. Alors,
oui, mais il va l'être davantage après cette
émission. Oui, 1767, Voilà, c'est un musicien qui est entre Bussy et Rameau. Musique française, opéra, la GFT. Non, vous savez, l'histoire de GFT, la fille de GFT, c'est GFT qui avait promis de sacrifier la première créature qui reviendrait s'il remportait la victoire. Et bien sûr, c'est sa fille. Alors, il est embêté. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter quelques extraits du GFT de Monteclair, toujours interprété par l'ensemble baroque de Limoges, première version. Thank you. Eh bien, pour jouer ça à la trompette naturelle,
il faut s'accrocher.
Il faut s'accrocher, il faut avoir surtout une grande habitude et un grand entraînement. Alors, c'est Gilles Rapin et Serge Tizac.
Bon,
les deux trompettes.
Moi, je vous propose de terminer avec une trompette, mais qui, elle, a des pistons.
Elle a des pistons, voilà.
C'est Chet Baker.
Eh bien, voilà, un indicatif, ça nous indique que l'émission se termine.
C'est vrai.
Et nous vous souhaitons une bonne soirée. On vous dit à la semaine prochaine. Vous êtes toujours sur RTF 95,4 MHz et vous venez d'écouter Le Mandarin Merveilleux, les réducteurs de texte. Merci Francis et à bientôt.
Merci Jean-François pour les deux beaux livres que vous nous avez conseillés ce soir. À la semaine prochaine. Thank you.